6h, 10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
Et on a passé la barre des 9h, vous êtes sur Phare FM, le Positive Morning avec vous. Et puis, on n'est pas tout seul, hein, effectivement, depuis ce matin, nous avons avec nous Claude Gréder. On vous redit bonjour, Claude.
Bonjour.
Ah.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, Claude.
Merci. C'est un plaisir Claude. D'être avec vous, cher Matt, cher.
Ah ben le plaisir est plus que partagé. Puis vous aussi.
Cher Thomas, vous avez vu l'oubli de prénom.
Ah, voilà,
c'est pas grave.
Mais bon, écoute.
Ce matin, donc on le disait, c'est la fête de la radio.
Oui.
Voilà, on fête les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libération de la bande FM. Mais avec vous, Claude, on revient surtout sur l'histoire de Phare FM ce matin.
Ouais.
Et on voulait vous poser quelques questions.
Et oui, on va notamment parler des radios chrétiennes pendant toute cette heure. Mais avant toute chose, Claude, on aimerait un peu que vous puissiez vous représenter pour toutes les personnes qui ignorent encore. Et oui, ça existe malheureusement. Les personnes qui ignorent qui vous êtes.
Qui je suis? Je suis Claude Gréder. Ça fait depuis 2001 que je suis président de Phare FM, Phare Média.
Mm-hmm.
Je suis marié avec Caroline depuis une trentaine d'années, 29 ans exactement. J'ai deux jumelles. Ils auront 16 ans bientôt.
Et bien, on les salue. Coucou.
Bonjour à vous, mesdemoiselles.
Et du coup, c'est pour ça que vous êtes bien placé, Claude Gréder, pour pouvoir parler un petit peu de la radio du passé, mais aussi de la radio du futur. C'est un peu tout
exact.
Ce qu'on va voir cette heure-ci.
Avec plaisir.
Ça va être vraiment passionnant. Donc, restez bien avec nous.
6h, 10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
On veut tout de suite commencer à aborder avec vous les radios chrétiennes, parce que la radio, Claude, ça a toujours existé en fait.
Toujours non, on fête les 100 ans de la radio, donc avant ça n'existait pas.
C'est ça.
Mais depuis 100 ans ça existe effectivement. Il y a eu peu de radios en France, la radio d'État. En Alsace en particulier, il y avait Radio Strasbourg PTT qui avait été née en 1921, une radio AM qui avait une grosse puissance de diffusion qui littéralement était quasiment entendue dans la France entière.
Wow.
Et qui avait fait du beau travail, qui était très très je dirais dynamique et qui collectait beaucoup d'audience. Et puis à l'arrivée de la guerre, ceux qui géraient la radio l'ont carrément sabordée pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Et donc après la guerre, il n'y a pas eu de radio en tout cas en Alsace, pas eu d'autres radios que la radio d'État. Et quelques radios qui émettaient de l'extérieur du pays, notamment de la Belgique ou de Monaco, RMC, RTL, Luxembourg, Belgique, ont envoyé des puissances absolument colossales sur toute la France avec leurs émissions et leurs projets. Et donc, à partir de 68, il y a eu un vent de liberté qui est arrivé, les gens voulaient s'exprimer et sont arrivées les radios pirates. Et en Alsace, il y en avait une particulièrement qui était anti-nucléaire, qui s'appelait Radio Verte Fessenheim, qui est devenue Radio Dreieckland d'ailleurs.
D'accord.
Voilà, donc c'est des choses.
Voilà,
et cette radio était pirate. Il y en avait plein. Il y avait Radio Muspac, par exemple. Il y avait des radios des petits pirates. Il y avait des gros pirates et des petits pirates. Il y avait toutes les dimensions. Mais il fallait à un moment donné réguler. Et Mitterrand avait donné comme possibilité, enfin, avait fait une promesse électorale en disant si je suis élu, j'ouvre la bande FM aux opérateurs privés. Ça, il y a 40 ans.
Il y a 40 ans, c'est
40 ça.
Ans c'est ce qu'on fête aussi ensemble. Et puis, Claude, justement, on aimerait vous demander si les radios chrétiennes sont aussi nées un petit peu dans ce mouvement-là.
Absolument. Je pense que les radios, d'ailleurs, il y a eu foison de radios. Je ne sais pas si vous savez, mais sur Mulhouse, il y en avait tout plein. Il y avait Radio Muse, Radio Bolwerk, Radio Bienvenue, Radio Star, qui est devenue Nostalgie. Il y a eu Radio Amitié, Radio Fréquence Mulhouse, Radio Visage. Il y a eu aussi Radio Vie Nouvelle. Qui a été pendant un temps là, non pas comme opérateur, je dirais, pirate, mais qui avait été autorisé pendant un temps, pendant la décennie. Enfin, c'était des petits émetteurs pas très forts, et donc qui ne rayonnaient pas forcément largement. Et c'était voulu un petit peu au départ, comme ça. Et toutes les radios étaient associatives, Et puis, il y a eu dans ce mouvement-là, effectivement, des communautés chrétiennes diverses et variées qui ont saisi la balle au bon pour aussi apporter un message différent sur les ondes. Alors, il y a deux grandes tendances. Il y avait d'un côté les catholiques et de l'autre côté, il y avait les évangéliques en général, voire quelques protestants aussi. Et ces radios sont nées de ci, de là, non, Radio Vie Nouvelle, à Mulhouse, qui a émis pendant 4-5 ans, je crois, et puis qui a été arrêté au passage d'un rebattage des cartes, d'une redistribution des cartes, parce qu'il fallait mieux organiser le plan de fréquence.
Ah, ok.
Et sous la présidence de Hervé Bourges du CSA, ils ont refait un appel à candidature en 88, je crois. Et en 88, il y a plusieurs structures, dont celle que je connais le mieux, la Porte Ouverte, aussi, avec qui j'ai fait le dossier, pour créer une radio. Donc on a postulé. En postulant pour Radio Victoire. Imaginez bien Radio Victoire, c'était intéressant ça comme projet. Mais c'était vraiment aussi une volonté de pouvoir parler. Et on s'est dit qu'une fois qu'on a un haut-parleur et qu'on a un micro, tout le monde nous écoute. C'était les grandes années du exprimez-vous. N'importe qui vous écoute. Ça, c'était pas l'affaire des politiciens. Eux, ils voulaient un plan politique, un projet politique, que le peuple s'exprime. Et donc, il y a eu des projets. Et globalement, entre toute la France, je parle de la France entière, globalement, il y avait autant de radios catholiques que évangéliques, protestantes. Et c'est que le monde catholique est un peu plus structuré que le monde protestant et évangélique. Et ben, ils ont très vite mis quelqu'un, enfin, il y a un prêtre de Lyon, Père Païen. C'est pas un jeu de mots, hein. Père Païen, qui a finalement fait créer Lyon-Fourvière. Et qui est parti avec un bardon de pèlerin dans le tour des évêchés de France pour lancer le projet radiophonique. Et il s'est créé des radios, des projets locaux, des projets départementaux de radio chrétienne. Et petit à petit, ça s'est organisé. Alors je résume des années de négociations et de tergiversations. Je fais court. Il y a eu ce rassemblement de radios autour du projet radio chrétienne française RCF. Il y a aussi eu des évangéliques qui se sont rajoutés par faute de moyens, par faute de projets, par faute de personnel, par faute de capacité, en tout cas simple, pour faire avancer les choses. Radio Harmonie de Bordeaux est devenue RCF Bordeaux, et ainsi de suite, une autre à Nice qui a basculé. Donc, et puis d'autres se sont arrêtés au niveau des évangéliques. Il y a eu une espèce de, je dirais aussi, la faiblesse de l'arrière boutique, c'est-à-dire des églises naissantes qui avaient des projets tout plein et qui faisaient que ils avaient créé une radio, mais c'est pas forcément les moyens ou la capacité d'aller de l'avant. Certaines radios se sont éteintes. Ça aurait pu être le cas de Radio Phare aussi.
Oui.
Mais il s'est passé autre chose.
Eh ben super, merci Claude pour ce partage d'histoire vraiment de ces radios chrétiennes. Et on a envie de revenir sur l'histoire notamment de Radio Phare qu'on a cité, la vision de départ. Comment ça s'est passé au début, Claude?
Alors écoutez, je ne sais pas tout à fait parfaitement sur le bout des doigts. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y avait un groupe de chrétiens avec le pasteur Leonardi qui avait aussi déposé un dossier de candidature lors de l'appel à candidature du CSA en 1988. Ils ont déposé un dossier avec aussi plein d'interrogations. Ils avaient déjà participé à Radio Vie Nouvelle, en tout cas partiellement. Père, tout le monde a un peu participé, ou au moins on est intervenu. Mais là, il fallait faire un projet radiophonique cohérent, global. Et ils avaient bien réfléchi, je dois dire, ils avaient réfléchi à une vision. Et je dois dire honnêtement que c'est une vision, 40 ans plus tard, non pas 30 ans, 30 ans plus tard, elle est encore pertinente. On va y revenir après. Et en tout cas, ils avaient fait ça. Et puis, je me rappelle, lorsque j'ai parlé avec le pasteur Leonardi, ils cherchaient un nom. Ils disaient quel nom on va donner Radio Chrétienne, alors radio comment, on ne savait pas. Et puis un soir, de sa maison, là où il habite, il voit un peu sur Mulhouse, un peu à hauteur, il voit sur Mulhouse et en pleine nuit, il se réveille et il reçoit une pensée profonde qui lui dit « Appelle-la Phare ». Même pas Radio Phare, juste Phare. Et ce nom est resté. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, déjà un peu, j'avais aussi 30 ans de moins, j'étais un peu plus jeune. J'étais vraiment pas encore là à l'époque, vous tout juste né, sorti du berceau.
Tout juste.
Je me rappelle, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'on appelle une radio Phare à Mulhouse ?»
On n'est pas la mer,
on n'est pas à Toulon, on n'est pas à Marseille, on est en pleine Alsace, quoi. Pourquoi appeler ça Phare? Eh bien, c'est la raison. Ils appelaient ça Radio Phare. Et d'ailleurs, quand on a voulu faire changer de nom en 2001, parce qu'on avait connu des époques glorieuses et moins glorieuses avec Radio Phare, et on voulait changer. Et au CSA, alors que je discutais avec les membres du CSA à Nancy, la branche régionale, j'ai trois fois essayé d'entrer le sujet du changer de nom. Et le gars en face, le président, il me dit « Mais monsieur Gréder, vous changez ce que vous voulez, mais pas le nom. »
Interdit. Oh.
« Vous ne changez pas le nom. » Je me suis dit « Mais... »
Énorme.
Comment faire ?
Enfin, il est comment lui, là, dans la tête ?
Un peu rigide.
Et un peu psychorigide. Et puis, une troisième fois, j'ai réinsisté. Il me dit « Mais monsieur Gréder, n'insistez pas. »
C'est non.
Je ne vous le donne pas. Vous gardez votre nom.
Ok.
J'ai dit, mais écoutez, alors à défaut de révolution, peut-on penser à une évolution ? Quoi donc ? Passer de Radio Phare à Phare FM, histoire de marquer le coup d'un nouveau départ. Il me dit, accordé.
Et juste pour les personnes hein, qui sont peut-être pas très proches de la mer, etc. Juste, on peut préciser un petit peu le rôle d'un phare et pourquoi appeler une radio Radio Phare ?
Je pense que justement, comme le symbole du phare l'évoque, c'est un point de lumière dans la nuit.
Ouais. Mmh.
C'est un repère vers une terre ferme. Mmh. C'est un chemin qui est indiqué. C'est quelque chose qui vous indique le chemin. C'est pas quelque chose qui vous oppresse, c'est au contraire une source d'espoir. Lorsqu'on est en pleine mer et qu'on cherche son chemin, que ce soit par beau temps ou par mauvais temps surtout, le fait de voir un phare, c'est signe d'espoir. Waouh, la terre est proche, proche, le secours est proche.
Et puis ce matin justement, eh bien, on est avec vous pour parler de ça, Claude Gréder. On parle de ce phare, hein, de Phare FM, mais on parle aussi de cette semaine justement, on fête les 100 ans de la radio. Et c'est important pour nous justement de revenir sur toute cette histoire. On va continuer à dérouler ça parce que vous parliez de Phare FM, ce tournant.
Tu peux nous rappeler, Claude, un petit peu quelle est la vision de Phare FM ? Qu'est-ce qui est dans son cœur ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour quelqu'un s'est levé, s'est dit « il faut qu'on fasse une radio ». C'était sûrement pas une question de tendance uniquement, mais il y avait réellement un désir profond, j'imagine.
Il y avait forcément un engouement avec toutes ces radios qui allaient naître. Il faut se rappeler, à l'époque, il n'y avait pas de télévision abordable par qui que ce soit d'ailleurs, trop cher. Donc Internet et les réseaux sociaux, c'était encore loin, c'est 25 ans plus tard.
Ouais.
Donc on est dans une logique de... La radio reste un média, le premier média qui s'ouvre aux opérateurs privés et on peut enfin s'exprimer.
C'est ça.
Encore faut-il alors faire en sorte qu'on puisse s'exprimer de sorte à ce qu'on soit écouté.
Oui.
C'est une autre question. Bref, en tout cas, effectivement, Mathieu, il y a une réflexion de fond qui a été menée par les quelques fondateurs et faut les saluer à ces gars-là. Ils ont fait un beau travail.
Ouais.
Une vision qui encore aujourd'hui, dans le détail, est pertinente, 30 ans plus tard.
Mm-hmm.
Je résume juste, je vous relis juste ce qu'ils ont envoyé au CSA comme phrase clé. Ils ont marqué dans leur document, dans leur appel à candidature, ils ont marqué l'objectif de Radio Phare est de diffuser le message de l'Évangile. Et ils rajoutent ainsi qu'un programme culturel de qualité avec de larges ouvertures vers toutes les forces vives de la région. Il y avait un double volet, une prise en considération qui avait une question de spiritualité, mais aussi une question de réalité culturelle, sociale, politique, économique, qui fait que, qu'on peut vivre ensemble. Je veux dire, je ne suis pas seulement fait d'esprit, j'ai aussi un corps qui a besoin de manger, de boire, de dormir, de rouler, de se déplacer, etc.
Et de bonne musique.
Et puis, écoute, de la musique. Parfait, parfait. Alors, on a essayé de rendre ça plus compréhensible. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit la meilleure des formulations, mais quand même, on l'a appelé comme ça en 2001. On a dit, Phare FM, eh bien, là, sa vision, c'est de changer des vies. Quel que soit le type de vie qu'on a, qu'on soit acteur économique, acteur politique, changer de vie, des vies, par la puissance de la parole de Dieu. Si je vous donnais aujourd'hui, Thomas, 1 million d'euros, ça changerait votre vie aussi, n'est-ce pas ?
Ah, sans doute, mais je prends.
Je vous prenez. Ah bon, je n'ai pas
sûr. Merci.
Attendez, ils me disent, je fais un doigt à Radio Phare FM de ça. Non, mais on peut être. Ça va nous changer la vie, évidemment. Mais est-ce que ça va la changer dans le bon sens du terme ? Je ne suis pas
certain. Profondément.
En tout cas, le rôle. Alors, je voudrais peut-être parler de ça. Le rôle de la radio, c'est pas le rôle d'une communauté chrétienne, d'une église. C'est pas le même rôle. Il y avait. Je voudrais le comparer à ce rôle qu'avait Jean-Baptiste avant l'arrivée de Jésus. C'est quand même intéressant que Jésus, le Fils de Dieu, ait eu besoin d'un précurseur. Quelqu'un dont il est dit qu'il rabotait les montagnes.
Ouais.
On parle là symboliquement. Rabotait les montagnes, espèce de bulldozer qui rabote les montagnes, qui rehausse les vallées, d'incompréhension, les vallées de préjugés, qui abat les montagnes de préjugés.
Ouais.
C'était tout un travail préparatoire au message qu'allait apporter le Christ. Et la radio est dans cette dynamique-là. Donc du coup, elle n'est pas une église. Et donc, elle n'a pas vocation à jouer le rôle d'église. Elle a vocation d'ouvrir les horizons. Elle a vocation de démonter des idées reçues. Elle a la vocation aussi de crédibiliser le message de l'Évangile. Ça, c'est rehausser les vallées, etc. C'est là son rôle profond. Et donc, c'est un rôle pré-église. Voilà.
Si je comprends bien, il y a l'idée de connecter avec les gens dans ce qu'ils sont, absolument, dans leur réalité, et aussi l'idée de préparer le terrain, justement, oui, derrière, pour annoncer l'évangile. Bah, c'est formidable. C'est ce que cette radio fait pour vous chaque jour, vous qui nous écoutez de Marseille, de Nice, de partout en francophonie aujourd'hui. C'est grâce aussi à tous ces fondateurs, et on les salue ce matin, vraiment, on leur rend aussi honneur, qui ont vraiment milité pour que ce message puisse s'étendre partout en francophonie.
Je veux aussi honorer tous celles et ceux qui, de différentes communautés, en tout cas de Mulhouse, hein, je parle de Mulhouse précisément, ont participé. Il y avait 7 communautés qui ont participé, et au niveau humain, et au niveau financier, et au niveau, je dirais, endurance. Et ils ont participé pendant des années avant d'admettre qu'il va falloir repenser le projet dans les années 99-2000.
Et puis on va parler aussi de Claude ensemble, de cette rencontre qui a aussi changé les choses pour Phare FM, la rencontre avec UCB UK, d'ailleurs qu'on aura l'occasion de mieux connaître encore cette semaine aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Claude, de cette rencontre ?
Oui, c'était dans une phase où justement on réfléchissait on a remis le projet Radio Phare sur l'établi. On a dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Et pendant des mois, on a réfléchi, puis on a prié, puis on avait un projet qui était fini. Enfin, qui était rédigé sur du papier, on avait fait quelques-uns, on avait rédigé un document de synthèse. Et puis moi, dans ma réflexion, je me suis dit, mais tout seul, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que voilà, je ne suis pas un homme de radio. J'étais dans l'enseignement, là, je suis pasteur, la porte ouverte. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de compétences. J'ai juste envie de dire, mais écoutez, voir, on n'est quand même pas si nunuche que ça pour faire de la radio aussi mal que ça. Faire mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire mieux et comment faire et donc avec moi-même, dans mon bureau, j'ai pris ce projet. Je me rappelle, j'ai dit oh Dieu, si vraiment tu veux que ce projet réussisse, si tu veux que ça marche, voilà, je le mets au fond du tiroir. Et si jamais tu veux quelque chose, tu n'as qu'à le ressusciter. Moi, j'ai plus y toucher. Voilà que 2 mois plus tard, en plein mois d'août, donc ça c'était fin juin, plein mois d'août, je reçois un coup de fil à la porte ouverte de BBC World. Qui veut interviewer un pasteur au sujet d'une loi qui pourrait nous impacter. Le seul qui était à la maison et qui parlait à peu près anglais, c'était moi. Et donc, je me retrouve avec une équipe d'interview anglaise qui arrive. Et dans ma crainte, j'envoie un mail. C'était aux États-Unis, un frangin. Je lui dis, écoute, tu ne connais pas des gens chrétiens qui ont les médias en Angleterre. Et il me renvoie un email. Il dit, écoute, cette dame-là, elle est là-bas en Angleterre. Elle s'appelle anaxius@ucb.co.uk. Et donc, moi, UCB, BBC, je me dis, c'est sûrement une maison de production pour BBC. Et donc, je l'interpelle. Enfin, je lui demande des conseils. Elle me donne des conseils précis sur le personnage qu'elle m'a interviewé. Donc, j'étais prêt. Je réponds. Et finalement, quand c'est diffusé, elle me dit, super, au moins de cette fois, c'était diffusé. Elle me dit, super, vous avez bien répondu, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bien arrivé dans les oreilles des Anglais, etc. By the way, nous serons à Strasbourg au mois de novembre. Est-ce que c'est loin de chez vous ? Je dis non, venez, je vous invite, venez à la maison. Et donc, au mois de novembre, il débarque d'abord à l'église, puis chez moi à la table. Et à la table, je me dis, j'ai 3 personnes en face de moi, et je me dis que j'ai l'ensemble du staff. Et je dis, alors, vous êtes UCB, c'est quoi UCB ? Ils me disent, c'est une United Christian Broadcasters. Je dis, ah, c'est une radio chrétienne. Il dit, bien sûr, on est 100% chrétienne. Je dis, ah bon ? Et je demande, vous êtes combien ? À l'époque, il me dit 60. Moi, j'avais compris 16. Il dit, non, pas 16, 60. à plein temps. Je dis, ah bon, d'accord.
Belle équipe.
Ouais. Et alors, ils me disent, vous avez aussi une radio ? Je dis, nous, on radiote. On peut l'écouter. Alors, on a écouté. J'étais un peu gêné, quoi.
Mais oui.
En tout cas, c'était comme ça que ça s'est fait.
Et on va voir ce que ça a changé pour la suite, pour Radio Phare, qui est ensuite devenu Phare FM. Claude Gréder, président de Phare Média, vous restez avec nous jusqu'à 10h. On célèbre ensemble les 100 ans de la radio.
6h, 10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
Et on poursuit notre discussion avec vous.
Et oui, puisqu'on parlait justement donc de Phare FM et de cette rencontre particulière, notamment avec UCB UK. On disait, Claude, que vous étiez là, on s'imagine donc installé à table avec ces 3 personnes. C'est là où on s'est arrêté.
Exact.
Comment s'est passée la suite ?
Eh bien, à la suite, ils m'ont demandé si on avait une radio. J'ai dit oui, on radiote aussi. on peut l'écouter ? J'ai dit non, on ne peut pas l'écouter, non, c'est pas possible. Donc ils m'ont dit, mais on veut quand même m'écouter. Donc on a écouté, voilà, c'était ce que c'était. Pas trop mal d'ailleurs, mais en même temps, quand on écoutait leur radio satellite, c'était tout à fait une radio comme on connaît aujourd'hui. Donc, de là est née une relation. Et puis, à la fin, en partie, ils m'ont dit, mais écoutez, nous, on est prêts à aider des radios qui veulent se professionnaliser. Notamment les radios chrétiennes qui veulent se professionnaliser. Je dis, ah bon ? Et ils m'ont dit, cette phrase énigmatique, mais très biblique, ils m'ont dit, demandez, vous recevrez.
Wow.
Et je me suis dit, mais je vais leur demander quoi, moi ? Je ne sais même pas quoi leur demander, je ne sais même pas comment faire de la radio. Donc, donc voilà, c'était un peu ça, qui était, mais c'était un point de départ. Alors pour faire court, 9 mois plus tard, ils ont vraiment, moi je suis allé les voir, j'ai découvert l'ampleur du projet qui était derrière. Et puis au retour, on a pu faire basculer tout le CA vers une nouvelle directive, une nouvelle direction, un changement fondamental qui a eu lieu. Et puis, les Anglais m'avaient dit, si tu passes président, si tu arrives à changer le conseil d'administration, et si tu obtiens du CSA l'autorisation de modifier ton programme, alors nous, on va t'appuyer, on va t'amener un logiciel. Il n'y a pas de logiciel encore. Vous ne connaissez même pas ce que ça veut dire, un logiciel. En tout cas, à notre niveau, on n'avait pas idée qu'un logiciel existait. C'était tellement cher, inaccessible. On va te payer un logiciel, on va t'emmener toute la musique, et je t'envoie deux de mes techniciens pour t'installer ça en 8 jours. D'accord ? Et tu m'envoies 2 de tes gars pendant 8 jours chez nous pour qu'ils voient comment ça marche. Donc,
projet clé en main.
Projet clé en main. Moi, j'étais élu le 12 ou ouais, le 18, 19 juin. Et le 21, j'avais rendez-vous avec le CSA. Et le 21 au soir, ils m'ont tout accordé. Le 30, on avait fini tous les documents. Le 17 juillet, le CSA Paris avait tout validé. Le 18, j'ai appelé l'Angleterre. J'ai dit, hey, my friend, voilà, ça, tout a changé. Je suis président, nouveau board. Et le CSA vient d'arriver. Il dit, OK, alors maintenant, il y a des congés. Fin août, tu m'envoies 2 gars. Début septembre, je t'envoie mes deux techniciens, et c'est comme ça que ça a basculé.
Incroyable. Et puis du coup, justement, on parle donc de cette rencontre qui a tout changé. Mais Phare FM, on a beaucoup parlé du côté de l'Alsace, et après, c'est devenu une vision nationale aussi. Il y a eu l'arrivée aussi d'un réseau.
Il faudrait quand même que je n'oublie pas des gens locaux qui ont fait qui étaient précieux. Je veux dire, à un moment donné, j'étais devant mon projet et je me disais, mais ça ne marchera pas. Enfin, en tout cas, je n'étais pas certain que ce qu'on avait réfléchi avec un groupe de bénévoles allait être meilleur que ce qui était déjà à l'antenne. Et avec le pasteur Leonardi, à un moment donné, on avait prié pour qu'on trouve des gens. Moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait que des chrétiens dans les médias à Paris, il n'y en a pas à Mulhouse. 8 jours après, je vais au bureau à la porte ouverte en tant que pasteur. Voilà ce que sort une jeune femme du bureau de pasteur principal. Et lui me dit, c'est elle ta réponse. En fait, j'avais affaire à Sonia Muller, notre collaboratrice.
On connaît bien.
Qui était à l'époque l'ex-épouse du président, du directeur de Radio Dreikland, et qui priait depuis 2 ans avec une collègue, Carmen, qui a aussi été notre employée pendant pas mal d'années. Elles sont venues m'aider. Elles ont ramené le détail. Elles ont ramené le détail franco-français à notre projet.
Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit que c'est un projet vraiment conduit des mains divines. C'est-à-dire qu'on voit la main de Dieu en dehors de la volonté et des limites que vous aviez, Claude, et que vous aviez tous avec l'équipe et les bénévoles et les anciens. Dieu a conduit ce projet. Ça qui est formidable.
Ouais, c'est formidable. Et malheureusement, il y aurait tellement de choses à te dire. On va vite faire un petit tour du côté du réseau de Phare FM.
Alors très vite, Carmen et Sonia, quand on a parlé de la radio, de la refonte des programmes et tout, il faut que tu penses déjà à d'autres fréquences. Je leur ai dit, écoutez, tranquille, langsomme, pitié, on fait déjà une bonne radio locale et après on verra. Mais c'était, ils ne m'avaient jamais quitté. Et puis en 2004, alors que la radio était lancée, que les choses remontaient la pente, etc., il fallait donner du temps au temps pour voir s'il a porté du fruit, etc. Voilà que je suis invité à une rencontre au Top Chrétien avec le patron de la radio anglaise, Eric Sellerier, moi-même. Et pendant qu'on discute là, à table, autour du bureau, Eric, il lance cette phrase. Je me rappelle très bien comment il l'a dit. Il a dit, il faudrait qu'on réfléchisse pour savoir comment toucher le pays. Cette phrase, il a dit à 11h du matin, elle ne va pas quitter le cerveau jusqu'au soir. C'est comme si tout mon cerveau était pris par cette pensée. Comment toi, Claude, avec la radio que tu gères, peux-tu faire quelque chose qui touche le pays? Et à partir de là, la question du réseau est revenue à la surface. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mes 2 collègues, j'ai dit, écoutez, les filles, maintenant, préparez-vous, on va faire un réseau. Ils m'ont dit, mais t'es fou, on a du mal à faire la radio locale. Après, j'ai dit, peu importe, on va y aller. Et voilà, alors, pour faire encore une fois très court,
merci.
De 2005-2004, en 2007, il y a eu des discussions, il y a eu des présentations de projets à une fédération de radio chrétienne, et puis, etc. Et quelques radios enthousiastes ont dit, nous, on fait avec toi. J'avais demandé au moins 3, on en a eu 5. Et du coup, est né ce réseau, et il a démarré le au mois de janvier 2007. Avec plein de péripéties et là encore une fois des anecdotes incroyables que je pourrais vous raconter pendant des heures sur comment ça s'est fait dans le détail, mais avec des moments clés où c'est une main invisible qui était derrière. Parce que sincèrement, moi j'étais que celui qui poussait les portes, et celui qui avait déverrouillé les portes, c'est un autre.
Déverrouiller les portes. Et c'est bon de voir tout ce que Dieu a fait dans ce projet et continue de faire, évidemment. Hein. On en parle ensemble dans cette semaine spéciale et 100 ans de la radio qu'on fête ensemble.
6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
On est arrivé jusqu'à à la conclusion, j'ai envie de dire, que Dieu a été aux commandes dans des détails extraordinaires. Il a orchestré chaque détail pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et on parlait il y a quelques minutes du réseau, de comment on est passé d'une radio locale mulhousienne à une radio nationale, comment Dieu avait conduit les choses. Et notamment, j'ai envie de dire, aujourd'hui, un autre niveau encore, parce qu'avec l'arrivée du DAB+, il y a un futur, j'ai envie de dire, immense qui se dessine devant nous. Et donc voilà.
Et justement, on va en parler de cette époque. Alors, 2012, si je ne me trompe pas, avec cette arrivée du DAB+, à Paris notamment, Claude Donner.
Oui, tout à fait. C'est en 2012 que le CSA, dans l'entre-deux-tours des présidentielles, a forcé la main aux opérateurs radiophoniques pour faire avancer la question du DAB+, une question qui avait déjà été bien avancée ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse d'ailleurs aussi. Et or, depuis 1995, on parlait du DAB+ en France, de la RNT, de la radio numérique terrestre, le pendant de la TNT en télévision. Et puis ça a traîné, et puis les grands opérateurs ont traîné les pieds. En 2008, ils ont forcé le CSA a un moratoire de 4 ans, enfin au moins de 4 ans, voire plus. Et le CSA a dit maintenant, il faut qu'on rattrape un peu l'Europe. Et ils ont poussé la roue. Et pendant ces 4 semaines, on avait juste 4 semaines pour répondre. Il fallait imaginer un tout nouveau concept. Parce que là, on avait imaginé partir par la bande FM avec des stations qui existaient déjà, ou gagner des fréquences FM. J'avais fait une petite vingtaine de dossiers FM. Ça a été chaque fois non. Et là, voilà que quand j'ai parlé de ce projet de DAB+ à Paris, etc., Paris-Marseille-Nice, c'était trois zones qui étaient ouvertes. J'ai parlé à mon ami anglais, à nos amis de UCB UK. Le patron anglais m'a dit, écoute Claude, fais ce dossier pour Paris, tu verras, Dieu ouvrira les portes au niveau juridique. C'est ce qu'il a fait au niveau juridique. On a eu des réponses 3 jours avant de finaliser le dossier. C'était absolument remarquable. Et on est passé, non pas de catégorie A à la catégorie D. Et surtout, il me fallait des sous que je n'avais pas. Il fallait montrer qu'on avait un projet viable. Et lui, il m'a dit, quel que soit le prix, ça va te coûter pour diffuser à Paris, nous, on paye. J'avais les comptes audités avec une lettre officielle signée juridiquement pour qu'on puisse y aller. Et on a obtenu cette fréquence à Paris.
Et alors, comment ça se développe aujourd'hui, le DAB+, avec Phare FM?
Alors aujourd'hui, c'est une question de temps. Ça se déploie pas en un espace de 3 jours. Cette année, il y aura le déploiement de deux grands multiplexes nationaux avec les radios leaders du marché, les Radio France et puis les grosses radios commerciales, qui vont évidemment drainer les oreilles, parce que ce sont des locomotives. Elles vont drainer les oreilles vers le DAB+, donc ça va nous bénéficier à nous aussi, par effet d'entraînement. Ça va être un développement national qui démarre à Paris le 15 juillet prochain et qui va se répandre sur les axes Paris-Lyon-Marseille et enfin sur toute la France, les nœuds, les grandes agglomérations. Et nous, nous, c'est pareil, on va suivre ce tracé et essayer de glaner des fréquences. Pour l'instant, on est sur Paris, Marseille et Nice. On est sur Valenciennes déjà en communication. Demain, ce sera Bâle, sud d'Alsace, près de chez nous. Et puis, il y a Metz qui va arriver l'année prochaine, Troyes et Le Mans, et voir d'autres fréquences. Pour l'instant, c'est quel est l'avenir de la radio. C'est simplement, en tout cas pour moi, pour l'instant, ce qu'on peut dire, je crois qu'il y aura un développement hybride. C'est-à-dire que les radios, les voitures seront équipées d'équipements radio et qui pourront à la fois être écoutées en FM, en DAB+ et en IP. Partout. Donc ça, c'est maintenant l'avenir de la radio. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est aussi parti avec Radio Player, cette application qui regroupe, qui fédère toutes les radios hertziennes de France et qui est négociée pour être implantée dans les voitures d'office en sortie d'usine.
C'est extraordinaire là, d'imaginer ce futur de la radio, enfin ce qu'on vit déjà, ce qui est incroyable. Est-ce que vous aurez un petit mot de la fin, rapidement, Claude, à nous partager?
Je crois qu'au-delà de la radio, même si on se réjouit de ce qui se passe et on est heureux, je pense que c'est difficile de vouloir proposer quelque chose quand en face ce n'est pas demandé. Il faut qu'il y ait une demande. Or, je crois profondément que Dieu est en train d'attirer toujours et à nouveau, des générations entières à lui. Il y a des gens qui sont dans l'auditoire global, ici et ailleurs, qui sont déjà attirés par le Seigneur et qui ont soif de vérité. Et qui n'attendent qu'une chose, c'est que des fils et des filles de Dieu se lèvent et leur parlent de ce Sauveur merveilleux qu'est le Christ.
Eh bien, allons-y. Hein. Et puis, on vous remercie en tout cas, Claude Gréder, pour votre présence ce matin. Merci pour ces temps qu'on a partagé ensemble. Et c'est déjà l'heure de vous souhaiter une très, très bonne journée. On rappelle, semaine spéciale, on fête les 100 ans de la radio et les 40 ans de la Libération FM. On se retrouve demain, bien sûr.
Oui, on vous souhaite une très, très belle journée. À demain.
À demain.
Ciao, ciao. Bye, bye.